On va essayer avec la musique, parce que c'est peut-être la bonne façon de contacter Dieu, André Manoukian.
Mais oui, surtout que les dieux de la musique sont définitivement africains pour tous les musiciens. Alors, je vais vous parler ici de la fascination des Afro-Américains à la recherche de leurs racines. Je me suis baladé un petit peu avec mon ami Tété, on avait une émission...
Ah ouais, j'avais vu une... t'avais fait une série,
exactement, ça s'appelait Tété ou Dédé. On était à Dakar et puis il y avait un immense festival. Et là, on est tombé sur des Afro-Américains, donc des Américains, qui étaient à la recherche de leurs racines et qui se faisaient des tests ADN. Alors ça cartonne aux États-Unis en ce moment. Un petit échantillon de salive sur un coton-tige, on l'envoie. Et là, on était avec l'acteur qui jouait dans Prison Break et qui était à Dakar parce qu'il nous disait dans son ADN, il a découvert qu'il avait des ancêtres sénégalais mais aussi des ancêtres écossais. Ça l'emmerdait un petit peu. Voilà. Alors du coup, ça pose question. Parce que la question qu'on se pose, c'est comment les Afro-Américains qui ont été aux États-Unis ont perdu en deux générations le sens de leurs racines, de leur pays, de leur langue. Tout a été complètement éradiqué, alors que les mêmes Africains qui sont à 100 km au sud, à Cuba ou dans toute l'Amérique du Sud, conservent leur langue, le Yoruba, conservent leur rite et conservent leur musique. Je vous ai déjà fait cet exposé ici, je pense, c'est parce que certains se font christianiser par les protestants, donc...
Voilà, j'allais te le dire.
Et à ce moment-là, on n'a plus de polythéisme.
Surveillez-le. Hein.
Les autres s'étant fait christianiser par les catholiques, les Africains ont posé sur chaque saint catholique toute leur divinité et finalement ont pu conserver leur mémoire. Alors, cette fascination des racines, elle est aussi la fascination de tous les jazzman américains. Duke Ellington a été à Addis Abeba rencontrer les musiciens. Il a été absolument fabuleux. Fasciné. Et fabuleux comme d'habitude, c'est le premier qui, dans les années 30, va réintroduire dans son jazz la jungle, ce qu'on appelle le jazz jungle, c'est-à-dire tout d'un coup des rythmes africains et qui va renouer directement avec ses racines. En 74, il faut que je vous parle d'un concert fabuleux qui a lieu en marge du match de boxe mythique organisé par un grand, comment on l'appelait,
Don King.
J'y étais.
Vous y étiez, Manu? Ouais. J'arrête de parler, c'est vous qui m'apprenez.
Je te laisse parler parce que tu parles bien.
Vous y avez joué aussi?
Protestant catholique, oui. Voilà. Je jouais avec Fanny All-Star à l'époque.
D'accord.
Le latino, quoi.
Alors donc, ce match de boxe entre Cassius Clay, Mohamed Ali plutôt, et George Foreman, contre toute attente, c'est Mohamed Ali. Enfin, je ne vais pas vous raconter le match de boxe qui est assez fascinant, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toute l'Afrique va découvrir ce funk et va avoir envie de s'électrifier. Je parle sous votre contrôle, Manu. Un an auparavant, en 1973, naît un certain Lionel Loueke, guitariste béninois. Ouais. Il va faire ses études à Abidjan, il obtient une bourse. Comme il est bon, il a aussi une bourse pour aller à Paris, à l'American School. Comme il est bon, il a aussi une bourse pour aller à la Berklee School of Music à Boston. Et le dernier truc, le plus difficile, c'est une école qui s'appelle le Thelonious Monk Institute à New York. Et là, il faut faire une audition, on prend les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Dans le jury, il y a Herbie Hancock et il y a Wayne Shorter, qui sont deux musiciens. Ah, je ne veux pas vous les présenter ici, si Alex, vous connaissez
non,
pas.
Non, je connais.
Mais ce n'est pas grave.
Des seigneurs.
Et il fallait jouer un standard, Footprints. Et là, Lionel Loueke me dit, je leur ai demandé si je pouvais faire une introduction. Ils ont dit, bien sûr, faites une introduction. Alors, il me dit, j'ai mis du papier à cigarette dans ma guitare et j'ai joué ma guitare comme une sansa. Et là, il me regarde, il me dit, je les ai maraboutés. Toujours est-il qu'à la fin de cette audition, voilà Wayne Shorter qui se lève et qui dit, cet homme, c'est mon frère, c'est lui que je cherchais. Herbie Hancock qui dit, il est hors de question qu'il fasse cette école, je l'embauche immédiatement dans mon groupe. Le directeur se lève, de l'école se lève et dit, il sera ni à toi, ni à toi, il est à moi et c'est moi qui vais lui payer son école. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé le chaînon manquant entre la musique africaine pure et la dialectique du jazz, qui est une technique quand même assez balèze. Alors ce chaînon manquant, cette espèce de mariage qu'il cherchait, eh bien finalement notre invité, le premier, l'a réalisé à l'insu de son plein gré. Pourquoi?
Évidemment.
Et voilà, vous allez, racontez-vous, parce qu'il y a un moment donné, The King of Pop lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un sample, il ne demande pas vraiment la permission à Manu Nudie Bongo, et ça va se terminer bien, on va dire.
Il y a des arrangeurs, puisque c'est Quincy Jones qui a arrangé.
On est en train de me dire qu'il s'est fait piller par Quincy Jones. Il y a quand même toujours ce putain de rapport colonial, mais on écoute l'original de l'original, les gars, sur France Inter, aujourd'hui, Manu Dibango, Soul Makossa, Reggae Makossa, s'il vous plaît. Merci, maestro. Reggae Makossa, la version légendaire, Manu. Elle est enregistrée avec Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, basse batterie, la rythmique légendaire du reggae, les musiciens de Marley qui ont joué aussi avec Gainsbourg. Et puis, les cuivres sont faits à New York et c'est les Breaker Brothers. Vous prenez les meilleurs des meilleurs, Manu.
Ben, j'avais l'occasion, j'en ai profité parce que quand tu es dans un rêve magnifique, autant qu'à faire, vaut mieux qu'ils finissent bien. Non, parce que Gainsbourg venait de finir la Marseillaise là et tout ça.
C'était son fameux album.
Voilà, dans ce studio-là, Dynamic Sound, qui n'était pas loin d'ailleurs de chez Bob Marley. Et moi, j'ai profité, le producteur m'a amené dans le même studio. Il a voulu une certaine rencontre, un Africain vivant en Europe, en France, rencontrant les Jamaïcains. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, j'ai hérité un peu des odeurs, je peux parler, de la Jamaïque et de Gainsbourg. C'était les mêmes musiciens, c'était le même studio, c'était le même technicien. Par contre, les cuivres, les violons et tout ça, et les voix, c'était fait à New York et le mixage a été fait à Londres.
Voilà, la légende Manu Dibango avec les meilleurs musiciens.
Et on retrouve dans le coffret 4 CD, Merci, Thank You, volume 1.